Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme du Studio Tamani. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Le 2 décembre est la journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. À marge à l'événement, Amnesty International plaide pour la création d'un bureau d'assistance juridique pour les victimes de l'esclavage par ascendance. La situation est un peu plus calme dans les localités du centre occupées par des groupes armés. Sur place, des habitants se disent rassurés de voir des patrouilles des forces armées maliennes aux alentours de la ville. La récolte s'annonce mauvaise à Yorosso. Des agriculteurs tirent la sonnette d'alarme pour prévenir d'éventuels risques de famine. À la présentation, Mariam Maïga, Salim Djouara assure la technique. Les défenseurs des droits de l'homme plaident pour la création d'un bureau d'assistance juridique auprès des tribunaux. Selon eux, ce système renforcera la protection des victimes de l'esclavage par ascendance au Mali. Ces anti-esclavagistes l'ont annoncé ce 2 décembre 2021 au cours d'une conférence débat à l'occasion de la Journée mondiale pour l'abolition de l'esclavage. Cette deuxième édition a été célébrée sous le thème Esclavage par ascendance au Mali, un frein pour la paix et la cohésion sociale. On fait le point avec Moussa Malé Sissoko.
Le coordinateur national du mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme rappelle que l'objectif de cette journée est d'accentuer la communication sur la pratique de l'esclavage par ascendance. Boubacar Djim déplore que ces formes d'esclavage contribuent à la discrimination de certains groupes dans la société.
L'esclavage par ascendance est la forme de l'esclavage la plus répandue au Mali et a pris une autre tournure dans la région de Kaï avec plusieurs assassinats qui n'honorent pas notre cher pays. Cette pratique est également fréquente au nord et au centre du pays.
De son côté, Salif Fofana, directeur exécutif de l'Amnesty International Mali, demande au gouvernement plus d'assistance pour les victimes d'esclavage.
Aujourd'hui, les victimes ont besoin de deux choses, l'assistance et la protection. Le tribunal de grande instance de Kaï a besoin de ce système. Je plaide pour que d'ici la fin de l'année, qu'un bureau d'assistance judiciaire soit vraiment auprès du tribunal de grande instance de Kaï. Pourquoi ? Parce que ça peut faciliter l'accès des victimes à la justice.
Face à cette requête, le représentant du ministre de la Justice promet que le département s'attellera pour donner satisfaction. Jakaria Doumbia regrette que cette pratique sape les efforts de l'État en matière de protection des droits de l'homme.
Dans le cadre de la réécriture du code pénal, la question de l'esclavage sera débattue et très certainement intégrée dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Mais en attendant, le ministre de la Justice a par lettre instruit aux procureurs généraux près les cours d'appel de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'engager des poursuites contre toute personne impliqués dans les actes en lien avec le phénomène.
En dépit des efforts menés par les défenseurs des droits humains, la pratique continue dans la région de Kaï. Selon les rapports, elle a provoqué le déplacement des femmes et des enfants, causé des morts et des blessés.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en commentant et partageant nos informations sur notre page Facebook ou encore sur Twitter.
Studio Tamani.
Un calme précaire règne dans certaines localités de la région de Ségou, devenue presque l'épicentre de l'insécurité. À Djabali et à Dogofri, les populations saluent les patrouilles que mènent les forces armées maliennes. Celles-ci lancent encore un cri de cœur aux autorités afin que leur localité soit totalement libérée des mains des hommes armés non identifiés. Le point avec Elisabeth Walet Mohamed Sissi.
Dans le cercle de Niono, région de Ségou, la vie semble reprendre petit à petit son cours normal à Dogofri, affirme une autorité locale. Les habitants sont soulagés de voir les patrouilles des forces armées maliennes aux alentours de la ville. Ils encouragent les autorités à intensifier ce genre d'action dans les autres localités afin d'aboutir à leur libération totale. Toujours dans la même zone, à Djabali, des sources locales soulignent que la situation sécuritaire de la localité s'améliore. Cependant, les habitants déplorent la cherté des denrées de première nécessité. Contrairement à Dogofri où le calme règne, à Farabougou, la situation demeure la même, indique un habitant de la localité. Pour ce dernier, cette situation a engendré un déplacement massif de la population et une cherté de la vie. Ni les petits commerces, ni les travaux champêtres ne sont plus possibles dans la localité, précisent d'autres sources sous couvert d'anonymat. Notons que d'autres localités du pays, notamment la commune de Boura, sont en proie à l'insécurité. Des hommes armés non identifiés profèrent des menaces à l'endroit de la population dans la zone.
un compte-rendu signé Elisabeth Ouellet Mohamed Sissé. S'agissant toujours de sécurité, au cours du mois de novembre, le Mali a enregistré moins d'attaques contre les forces armées maliennes. C'est ce qu'a affirmé ce matin la cellule de communication de l'armée. Mais pour le directeur de la Direction des informations et des relations publiques des armées, DIRPA, rassure que toutes les dispositions sont maintenant prises pour renforcer la sécurité des personnes et leurs biens. Souleymane Dembélé, directeur de la DIRPA, est au micro de Juliette Koulibaly.
C'est une situation toujours précaire. C'est vrai que pendant la période hivernale, nous avons eu des périodes de bas. Mais après cette période hivernale, avec différents engagements, avec les différents soutiens, et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que nettement, les FAMA sont en train de monter en puissance. Et vous l'avez constaté depuis un certain moment, si les terroristes s'hasardent à s'attaquer à nos emprises, ils en sortent avec beaucoup de pertes en vies humaines et d'équipements. Et à un certain moment, ils profitaient de nos déplacements, de nos mouvements pour s'attaquer à nos convois. Vraiment, les FAMA aussi ont changé de posture. Les FAMA se sont adaptés aux réalités du terrain.
Parlons à présent de lutte contre la corruption. C'est parti pour la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Les activités de cette semaine ont débuté ce matin et se poursuivront jusqu'à la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption le 9 décembre prochain. Le thème retenu cette année est « Votre droit, votre défi ». Dites non à la corruption. Les activités de cette édition ont démarré par un cadre de change sur le phénomène animé par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. La semaine est lancée en présence du ministre de la Justice. Notre reporter Draman Maïga y était.
Pour des participants, la seule manière de sauver le Mali est de combattre la corruption dans tous les secteurs. Le président du Conseil national des arabophones du Mali, Sénam, affirme qu'il faut une synergie d'action. Salam Traoré.
Notre pays, le Mali, traverse depuis une décennie la crise la plus difficile de son existence, dont les causes sont multiples. La mauvaise gouvernance, la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Cette lutte requiert une synergie d'action de toutes les couches sociales et professionnelles sans exclusion aucune.
Les responsables de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite félicitent l'engagement des acteurs de la société civile dans cette lutte contre la corruption. Moumine Guindo, président de l'OCLEI.
Cette mobilisation est bien plus que salutaire. Elle traduit en effet une prise de conscience réelle et vive face aux conséquences néfastes du phénomène pour les populations maliennes.
Quant au ministre de la Justice, il invite les acteurs à plus de sensibilisation autour de la corruption, voire même dans les écoles, pour décimer le phénomène au Mali.
Direction Yoroso pour parler de la campagne agricole qui n'a pas été une réussite totale sur l'ensemble du territoire national également. Si c'est le manque d'intrants agricoles dans certaines localités à Yoroso par exemple, les agriculteurs ont été butés à une insuffisance de pluie. Conséquence, ni le mil, ni le riz, ni le maïs, encore moins le sorgho, ne sont à la portée de main. Les habitants dénoncent les prix du sac de céréales qu'ils qualifient d'exorbitants. Le reçu de notre envoyé spécial de retour de Yoroso, Mohamed Ali Ag Aleida.
Le prix du maïs, du sorgho, ça va à 15 000, certains, même le sorgho, même ça va à 20 000. Mais le sac de maïs, à 15 000. À Boura, cela n'a jamais été fait. Il y a des années, à Boura, on pouvait gagner des sacs de 100 kilos à 6 000.
Ces propos sont de Duba Kolo Djoma, agriculteur à Boura. Comme lui, plusieurs habitants ont exprimé leur mécontentement. Pour les autorités locales, cette situation est due au retard de la période hivernale. Ebekono Somboro, chef secteur CMDT de Yoroso.
Concernant les intrants agricoles, on a vraiment reçu nos programmes. Mais c'est seulement un problème pluviométrique. Donc l'hivernage a démarré en retard. Pour ceux qui ont semé tôt, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais par la suite, comme la pluie s'est arrêtée, donc les semis ont été faits en retard. Donc pour les semis qui ont été en retard, au moment où les céréales devaient être en entreté, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, si on prend le coton, là, ça va un peu, parce que le coton est un peu plus résistant au déficit hydrique de ce que les céréales.
Par ailleurs, le président de l'Union des riziculteurs de Yorosso demande aux différents agriculteurs du cercle de bien gérer la récolte jusqu'à la campagne prochaine. Youssouf Kantigui Goïta, président de l'Union des riziculteurs de Yorosso.
La solution que je peux préconiser, c'est de sensibiliser les paysans de ne pas brader les faibles quantités de céréales qu'ils ont. Si les paysans n'ont pas de céréales dans les mains, ça serait l'échec pour la campagne à venir. Aux autorités de songer aux producteurs en les apportant un grand secours.
Mohamed Ali Agaleïda, de retour de Yorosso pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Écho de nos régions, commençons par Gao, où dans la nuit du dimanche à lundi 29 novembre dernier, deux corps sans vie et un homme blessé ont été découverts dans une maison. Des sources locales indiquent que les trois hommes auraient été attaqués par des hommes armés non identifiés. Les mêmes sources ajoutent que les victimes étaient des anciens militaires radiés. Ils faisaient partie d'un vaste réseau de vente de comprimés. La gendarmerie a ouvert une enquête pour trouver le blessé en fuite. De Gao, allons à Baflabé où des kits scolaires composés de matériel de géométrie et des boîtes de craie ont été offerts à 42 écoles du Cap de Baflabé aux enfants de parents démunis cette semaine. Le geste est de l'ONG Fandema. Les responsables scolaires ont indiqué que ce don permettra aux écoles en manque de matériel de travail de dispenser certaines disciplines et aux enfants d'apprendre et d'améliorer leur rendement. Terminons notre tour d'horizon de l'actualité par Kai où plus de 50 jeunes anciens migrants et responsables d'organisations de la société civile ont pris part hier à une séance d'information et de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. L'activité vise à promouvoir un changement positif de comportement au sein de la population. Elle a été organisée par le Conseil local des jeunes de Kai en partenariat avec l'ONG Wildafa. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais ne décrochez pas, nous allons introduire notre émission Le Grand Dialogue avant de retrouver le magazine. Imirana Kilumaïga, bonsoir.
Bonsoir Mariam Maïga.
Alors, quel est le thème du Grand Dialogue de ce soir?
VIH-Sida, comment s'effectue la prise en charge de malades? Et pour en parler, nous avons trois invités sur ce plateau. Docteur Sibi Sidi, chargé de projet à l'association Kenedougou Solidarité. Haïdara Fatouma Diara, présidente du réseau des associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Bassirou Diallo, conseiller en mobilisation communautaire à l'ONU-Sida.
Merci beaucoup Imrana et à très bientôt. Le travail des enfants reste un phénomène préoccupant au Mali. Selon un rapport de 2009 de l'UNICEF, plus de 60% des enfants économiquement actifs sont âgés de moins de 12 ans, alors que le gouvernement a mis en place un cadre juridique sur le travail des enfants. Le Code du travail prévoit que l'âge minimum légal d'admission à l'emploi est de 15 ans. On fait le point avec Arkia Touré.
Les enfants du Mali, le magazine des enfants.
Conformément à la législation du travail au Mali, aucun enfant ne peut être employé dans quelconque entreprise, même comme apprenti avant l'âge de 14 ans. Mais l'application de cette mesure n'est pas manifestée. À Bamako, dans le garage d'auto d'Aboubakar Koulibaly, on y trouve plus d'une dizaine d'enfants. Initiés à l'apprentissage de la mécanique moto, la plupart de ces enfants ont moins de 13 ans. Les garagistes disent subvenir à leurs besoins.
Les enfants que je coach chez moi peuvent dépasser la dizaine ou même la quinzaine des fois. Ils m'aident à travailler. Le petit soir, ils bénéficient des jetons. Ils sont aussi récompensés par certains clients. Ces enfants arrivent à faire des petites tâches. Ils sont ici par le biais de leurs parents. Je les forme gratuitement. S'ils tombent malades, je fais ce que je peux. Ils mangent aussi à ma charge. Les choses se déroulent ainsi chez moi. Alors, en retour, ces enfants subviennent aussi à mes petits besoins.
Selon la cellule nationale contre le travail des enfants, 2 sur 3 enfants travaillent au Mali soit plus de 3 millions d'enfants sont des travailleurs sur l'ensemble du territoire. Pour la direction de la promotion de l'enfant, les textes acceptent l'apprentissage de l'enfant à condition qu'elle ne soit pas un frein à son éducation et à son épanouissement. En revanche, elle précise que les travaux qui aboutissent à l'exploitation de l'enfant sont condamnés par les mêmes législations. Issouf Bagayogo, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille.
Toute pratique qui empêche l'enfant d'aller à l'école, toute pratique qui empêche l'enfant de se développer physiquement, de se développer mentalement, qui soumette l'enfant à des sévices, à des nuisances, alors ce sont des travaux qui sont condamnés au niveau, en tout cas, du travail des enfants. Le Mali est d'accord que l'enfant puisse apprendre, puisse être socialisé, mais avec un travail acceptable, mais qui ne nuit pas à l'enfant.
À savoir que le code pénal prévoit des sanctions par rapport aux contrevenants de ces textes. Quant aux défenseurs des droits des enfants, ils incitent les parents à maintenir les enfants à l'école.
C'était le magazine Tous les enfants du Mali.